Donc voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue pour la quatrième séance de ce séminaire. Alors j'avais dit la dernière fois que je ne procéderais pas cette année comme par les années passées en commençant chaque séance par des espèces de notes intermédiaires issues des questions ou des points qui me semblaient insuffisamment traité lors de la séance d'avant, et que je me proposais de faire plutôt un séminaire l'année prochaine avec une reprise un peu systématique d'un certain nombre de points justement liés à des questions qu'on aurait un peu effleurées ou trop effleurées, enfin de mon fait, hein, bien entendu. Et puis finalement, je me rends compte que à cause de certains éléments de discussion de la dernière fois sur lesquels, en réécoutant la bande-son, j'ai trouvé que je ne répondais pas assez précisément. Je vais faire quand même des notes intermédiaires, et même, je crois bien que je vais en faire un certain nombre, puisque j'en ai prévu 7, ce qui est loin d'être peu. Donc je me contredis complètement du point de vue de la méthode. Mais bon, voilà. Alors, première note intermédiaire. Il y a un ordre relatif. Ça serait pour préciser quelque chose qui était dans mon propos à propos de la morale et de ce que j'ai appelé la légende de la morale, ce qu'il faut dire. Voilà. Donc, remarque sur ce point. Au sommet de Paris du 11 février 2025, donc récemment, qui était consacré aux intelligences artificielles, a été signé un accord stipulant que la dite intelligence artificielle devait être, je cite, « ouverte, inclusive, transparente, éthique et sécurisée ». Alors, ma question, qui est liée à la précédente séance, c'est que vient faire éthique dans cette chaîne de mots ?« Ouverte, inclusive », il s'agit d'une intelligence artificielle, hein. Ouverte, inclusive, transparente, éthique et sécurisée. Que vient faire éthique dans cette chaîne de mots? Ou plutôt, qu'est-ce que cette chaîne ou cette mise en chaîne fait dire au mot éthique? Que signifie-t-elle elle-même, si on la prend dans son ensemble? Je pense que, pour aller vite, naturellement, je suis juste en note introductive, hein, il s'agit, à mon sens, en fait, d'une rhétorique qui ne fait pas comprendre son objet, à savoir l'intelligence artificielle, mais qui, en revanche, le figure. Il s'agit non pas de nous dire quelque chose quant aux intelligences artificielles, mais de figurer ce que c'est qu'une intelligence artificielle, c'est-à-dire un quelque chose qui est capable d'ouverture, d'inclusion, de transparence, d'éthique et d'être sécurisé. En l'occurrence, elle figure cette chaîne de mots l'intelligence artificielle non pas comme une chose technique, ce qu'elle est pourtant réellement, mais elle la figure comme une chose technique dotée d'une personnalité. Puisque le simple fait d'accoler la chaîne de mots que j'ai dit, avec en particulier le mot éthique à l'intérieur, au fond, attribue une qualité personnelle, de personnalité, à quelque chose qui est en réalité strictement un objet technique. Donc c'est une figuration. Réciproquement, cette chaîne de mots tend à figurer, par conséquent, la personnalité, la notion de personnalité en général, comme un fait appelé à être d'une éthique ouverte, inclusive, transparente et sécurisée. Hein, si vous dites que, en fait, cette chaîne de mots qualifie l'intelligence artificielle de termes qui conviennent à la personnalité, vous implicitement, vous faites une deuxième chose qui consiste à dire, mais qu'est-ce que c'est qu'être une personne? Eh bien, c'est être capable d'une éthique ouverte, inclusive, transparente et sécurisée. Il me semble que l'ensemble constitue, en réalité, la légende d'un ordre moral. Je voulais vous donner ça comme exemple de ce que j'ai essayé de faire comprendre de façon plus abstraite la dernière fois. L'ensemble constitue la légende, je dirais même, c'est peut-être la légende de l'ordre moral aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui. Cet ensemble de mots donne les bons mots de la période, ceux qu'il faut dire, hein, si on veut être du moment. Et cette légende, je signale au passage, qui appelle non pas à la sûreté, pour revenir à un point que j'ai introduit en toute fin de séance la dernière fois, mais à la sécurisation. Il me semble que cette légende qui appelle à la sécurisation est ambiguë quant à la nature de l'être qui, justement, doit être sécurisé. Il s'agit, en dernière analyse, moins d'un moi, de quelques mois que ce soit, hein, qui doit être sécurisé, mais bien un matériel fonctionnel. Et c'est comme si ça se retournait. C'est ça la façon dont ça fonctionne, la légende de l'ordre moral. C'est-à-dire que ça nous fait associer des mots, ça a de l'implicite, j'ai essayé de dire lesquels, et puis finalement ça retourne. Et au bout du compte, il s'agit de qualifier quand même, qu'on revienne à la réalité des choses, un matériel fonctionnel. En tant que personne, au sens premier ou traditionnel du terme, est-ce que moi, qui vous parle, mais peut-être chacun d'entre nous qui peut dire « je », est-ce que moi qui vous parle, je peux souhaiter être embarqué dans la logique qui soutient toute cette rhétorique ? En tant que personne, je ne souhaite pas être embarqué dans toute cette rhétorique. Alors, je viens de prononcer un mot « embarqué » sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, parce que c'est un mot qui va me sembler important, pas ce soir, mais la prochaine fois. Peut-être, ça sera la fin de ma première note intermédiaire, « je », celui-là ou celle-là qui dit « je », cet être qui dit « je », peut-être « je aimerais » haïté, hein, je mets tout « je aimerais », ne pas être traité en objet à sécuriser. Peut-être que justement les personnes, en tout cas les personnalités qui ne sont pas, des qualifications d'objets matériels au titre de personnes, mais nous qui sommes, c'est-à-dire vraiment des personnes, peut-être que nous aimerions ne pas être traités en objet à sécuriser et que nous aimerions en revanche disposer d'un droit à la sûreté, c'est-à-dire nous aimerions, à la limite, disposer de garanties contre précisément la sécurisation. Ça, j'essaierai d'en reparler ultérieurement, de la différence que j'ai introduite la dernière fois entre sécurité et sûreté. Peut-être que chaque personne aimerait non pas être sécurisée, mais pouvoir disposer de quelque chose qui s'est appelé pendant une période historique la sûreté. Car la sécurisation... peut-être que nous aimerions disposer de garanties précisément contre la sécurisation des matériels, contre des sécurisations qui sont d'ordre extérieur et qui sont supposées devoir convenir aux intelligences artificielles. Les intelligences artificielles sont des matériels qui ne peuvent pas se sécuriser eux-mêmes, si j'ose dire. Il faut qu'ils soient sécurisés. Alors tout ce jeu de mots qui consiste à mêler le registre des matériels et le registre des personnes ou des personnalités, finalement, ça nous laisse passer ou filtrer dans l'esprit que, au fond, nous qui sommes des personnes, nous pourrions bien être sécurisés comme ces personnes que sont supposées être les intelligences artificielles. Et je réponds en invitant à la suite du séminaire qu'en fait, peut-être, nous, en tant que personnes, ce qui nous conviendrait mieux, c'est qu'on parle non pas de notre sécurisation, mais de quelque chose qui s'est appelé historiquement la sûreté. Bon, voilà. Alors, ce n'est pas vraiment une mise au point, ou c'est en même temps une mise au point et peut-être une annonce de relance pour les deux prochaines séances. Deuxième note introductive. L'affirmation, comme je l'ai fait il y a 15 jours, de la dimension existentielle, hein, que j'ai essayé de dire... ce qu'il y a de plus commun peut-être aux humains, c'est leur capacité à exister, ce qui ne veut pas dire le fait de leurs existences, mais leur capacité, l'affirmation de cette dimension existentielle, l'affirmation qui était aussi dans mon propos d'il y a 15 jours, du mouvement, du bouger, de la modification d'une manière générale, est-ce que cette affirmation est compatible avec la notion de fidélité ? Donc là, il y avait une question à laquelle, il me semble, je n'ai pas vraiment répondu la dernière fois, donc je vais tâcher de le faire à présent. Donc pour répondre... Est-ce qu'on peut à la fois être fidèle et exister, c'est-à-dire être dans le mouvement, le bouger, la modification ? Je vous propose d'examiner rapidement une métaphore qui me vient d'abord et d'ailleurs essentiellement de Paul Klee, encore une fois, lorsque Paul Klee cherchait à dire ce que c'est qu'une création, c'est-à-dire pour lui une croissance, un venir à être, ou pour le dire encore avec un autre mot, une advenue, hein, ce qui advient. Voilà. Quand il cherchait à définir ce que c'était que la création, la croissance, le venir à être, Paul Klee prenait une métaphore dont je vais vous parler, la même que j'ai retrouvée par la suite et autrement commentée chez Simone Weil. Et cette métaphore, c'est celle de l'arbre. Alors, un arbre n'est jamais dans l'identique à soi. Réfléchissez-y. Un arbre n'est jamais dans l'identique à soi. Il grandit, il se développe, il gagne des feuilles, puis il les perd, puis il les regagne de nouveau, puis il porte des bourgeons, il n'en porte plus, il fait de même pour les fleurs et pour les fruits, il n'en porte plus, etc. Il change de couleur, etc. Il revient saison après saison dans son cycle, mais sans être jamais le même, hein, tout en étant quand même l'arbre qu'il est. Le tout peut-être, pour dire pardon, le tout peut-être de ce que c'est l'arbre, je dirais que non seulement il devient sans cesse, un arbre est une sorte d'être qui ne cesse de devenir, en tout cas tant qu'il vit. Je pourrais même dire qu'il recommence sans cesse à être, il recommence sans cesse à être, il est toujours l'arbre dans la naissance de quelque chose, aussi vieux soit-il. Il est toujours dans la naissance de quelque chose qui n'est jamais tout à fait pareil à ce qu'elle était. Jamais la fleur de la saison d'après sera la même que la fleur de la saison d'avant, même si elle est sur le même, entre guillemets, arbre. Or, cet arbre qui n'est jamais le même, dans ces changements mêmes, avec eux, il tient bon. Voilà. L'arbre tient bon. Je pense que l'idée qu'on a de l'arbre, c'est qu'il tient bon. Voilà. Et il tient bon sans jamais cesser d'être autre que ce qu'il était. Donc il y a, c'est un argument par métaphore, donc ce n'est pas suffisant, mais c'est pour quand même donner à penser que le mouvement, le changement, le bouger, l'existence n'est pas incompatible avec la fidélité. On peut dire l'arbre est fidèle à lui-même. Voilà. Le même étant éventuellement, dans mon langage, un peu problématique, mais je ne peux pas ne pas le dire parce que la langue française me fait venir évidemment l'expression. Tant qu'il est, l'arbre est fiable là où il est. Ainsi, me semble-t-il, est-il possible de compter moins sur sa maintenance, moins sur sa ressemblance, que bel et bien sur sa présence incessamment recommencée. Il me semble que l'arbre serait un exemple possible d'une présence incessamment recommencée. Alors, je laisse cette comparaison, j'espère faire son travail et permettre de revenir sur un certain nombre de choses que j'ai essayé de dire la dernière fois, de façon peut-être pas suffisamment précise ou suffisamment claire. Troisième remarque. Pour penser ce que met en jeu la métaphore de l'arbre, la logique attributive ou prédicative qui nous fait dire d'ordinaire l'arbre est vert, par exemple, cette logique ne convient pas. C'est-à-dire que pour penser le devenir, l'existence, etc., la logique prédicative ou attributive, ceci est cela, l'arbre est vert, je crois, est une logique qui ne convient pas. Il n'y a pas de vert absolu, et l'arbre n'est jamais absolument vert. Donc la phrase « l'arbre est vert » est toujours fausse. Bien qu'elle nous semble évidemment évidente. Voilà. Plus juste serait de passer, en suivant plutôt sur ce point la leçon des stoïciens que celle d'Aristote, en matière de logique, disons, plus juste serait de passer, si j'ose dire, à une ontologique de type verbal, pas attributive, mais de type verbal. Je donne un exemple, hein, qui joue sur les verbes et pas sur les attributs, et de donner à une forme d'expression ou de logique et de passer à une forme d'expression de logique qui ne fixe pas le sujet, qui ne le définit pas définitivement, et de dire, par exemple, au lieu de l'arbre est vert, l'arbre verdoie. Et ça, c'est une phrase vraie. Au moins, à certains moments. Et même peut-être, quand jamais, au fond, visuellement, l'arbre est vert, il est prochainement verdoyant. Hein, en prenant ce verdoyant, non pas comme un adjectif qui le qualifie, mais comme un participe présent, c'est-à-dire quelque chose qui est en cours. Quatrième remarque. Alors, je me suis aperçu en réécoutant la bande-son, qui est un instrument de travail entre deux séances, que j'avais un moment fait un lapsus que j'ai corrigé par la suite, mais sans le dire que je me corrigeais. J'ai dit à un moment donné que le commun était essentiellement grégaire, et la formule que j'avais sur mes notes, c'était « le commun est existentiellement grégaire ». C'est-à-dire que pour exister, il ne faut pas être grégaire. Pour que le commun soit dans l'existence, il ne faut pas qu'il soit grégaire. C'est ça ma position. C'est ça que je voulais dire. Je crains, je pense, avoir commis un petit lapsus à ce sujet, même si la phrase « le commun est essentiellement grégaire » n'est pas pour moi en fait une phrase fausse, mais ce n'est pas assez clair par rapport à ce que j'essayais de dire la dernière fois. Donc le commun n'est pas existentiellement grégaire. Dire ça, ça n'est pas nier que nous soyons de fait concernés par la grégarité. Mais ça veut dire que nous n'existons pas toujours autant que nous le pourrions. Dire que le commun est existentiellement grégaire, ça n'est pas nier que nous soyons de fait concernés par la grégarité, mais c'est dire que lorsque nous le sommes concernés par la grégarité, alors nous ne sommes pas mobiles ou existants autant que nous pourrions aspirer à l'être. Non, nous sommes à ce moment-là mobilisés et interpellés, convoqués, mais pas libérés dans nos mouvements. L'enjeu des mobilisations, des interpellations, des convocations, ça n'est pas l'existence, c'est plutôt la conformation et la ressemblance de chacun. Alors il y a plein de textes, depuis les textes de Gustave Le Bon que commentait Freud sur, la nature des foules, etc. Une foule, c'est dans laquelle, en fait, une foule se constitue à partir du moment où il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Donc je reprends cette phrase, l'enjeu des mobilisations, des interpellations, des convocations, ça n'est pas l'existence, mais la conformation et la ressemblance de chaque un, de chacun, à tous. En conséquence, si jamais une entité vient sans exister à proprement parler, à se manifester par le biais d'une foule, d'une masse ou d'une mise en file grégaire, cette manifestation de l'entité qui donc se manifeste par une forme ou une autre de grégarité, cette manifestation ne provient pas de l'élémentaire de l'existence. Elle ne tient pas, c'était ça ma position d'il y a 15 jours, par conséquent, dans son fond, au commun. Les mobilisations de foule ne sont pas communes. Voilà, c'est la thèse que j'essaye de soutenir. Hein. Les communs, ce qui nous tient commun, c'est la possibilité d'exister. C'est donc la possibilité de modifier nos modes d'être. Voilà. Et les moments de grégarité, de mobilisation, les moments où nous sommes mobilisés et que nous ne sommes plus chaque un, mais nous sommes nous. À ce moment-là, ce qui fait jouer ce nous, ça ne tient pas au fond, au commun. Donc c'est un paradoxe. Hein. Il y a un nous, et je vais y revenir de plus en plus dans les heures qui viennent et les prochaines fois, il y a un nous qui n'est pas commun. Voilà. Mais qui est capable de nous interpeller, chaque un d'entre nous, et de nous rassembler en foule, en masse, etc. Au contraire, d'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire, les mobilisations, par exemple la mobilisation générale qui préside, qui produit l'entrée, qui se produit à l'entrée en guerre en 1914, aura sacrifié toute une génération de communs. Voilà. La mobilisation peut parfaitement sacrifier les communs, ou le commun. Autrement dit, elle n'attend pas. Les grandes mobilisations, les mobilisations, etc., n'attendent pas du commun qu'il existe. Elles attendent du commun autre chose que son existence. Cinquième remarque. Comme je crois l'avoir dit dès la première séance, ou comme ça s'est apparu dès la première séance, l'interprétation du mot « place » et la façon dont la signification de ce mot est colorée ou nuancée dans un certain nombre d'expressions où il figure est un enjeu pour ce séminaire. C'est même peut-être l'un des enjeux majeurs de ce séminaire, en tout cas pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire quand je dis « place » ? Pour l'heure, donc ça va continuer à travailler. Mais pour l'heure, il me semble particulièrement soutenable de dire que chaque un est fondé à n'être pas le même, ni le même que soi, ni le même qu'un autre, ce qui devrait conduire à penser que tel un et tel autre, l'un et l'autre en général, sont fondés à ne pas occuper la même place, et par conséquent, ou partant, si vous voulez, à ne pas envier la place de l'autre. Envier la place de l'autre, c'est-à-dire une espèce de jalousie, si vous voulez, dans l'envie, que je distingue moi du désir. Dans l'envie, il y a l'idée d'avoir ou d'être, d'avoir les attributs de l'autre, ou d'être le même que l'autre, et d'une certaine manière, occuper sa place. Voilà. Je pense que l'existence et la notion de place à laquelle j'essaye de penser voudrait dire, au fond, que chaque un peut ne pas envier la place de l'autre, et que peut-être l'existence de chaque un consiste à pouvoir accepter de ne pas envier la place de l'autre, et en même temps à ne pas occuper soi-même la même place. C'est à se bouger. Est-ce que ça revient à dire que chacun, quand je dis tout ça, est-ce que ça revient à dire que chacun a une place définie, a fortiori, comme dans la métaphore de l'arbre, une place qui serait définie par la nature, parce que l'arbre, il est placé par la nature là où il est, mais nous pas. Voilà. Donc il y a la question derrière ça, quelle est la place de chacun ? Et c'est apparemment contradictoire avec une question sur qu'est-ce que ça veut dire pour chacun exister. Voilà. Il faut arriver à articuler ces deux éléments. Donc, est-ce que chacun a une place définie ? Non, je pense que tout mon propos de la troisième séance dit le contraire. Et je rappelle aussi le propos de la première séance où je suivais une expression d'Yvan Segré et j'essayais de parler en le suivant de la dynamique que je dirais à présent tout particulièrement humaine, dynamique qui consiste ou qui conduit à créer et à faire une place. Peut-être que la dynamique de l'existence, ça consiste à créer ou à faire une place, pas à occuper une place. À défaut de créer ou de faire une place, peut-être que la dynamique particulièrement humaine de l'existence, ça consiste à faire place ou à faire de la place. Alors, à ce genre de méditation pourrait contribuer, ou j'aimerais pouvoir contribuer à ce genre de méditation en effectuant une réflexion, une recherche sur la façon dont nous pouvons entendre le mot « économie ». Et je pense que ça serait peut-être un sujet pour l'année prochaine. Mais ce mot, pour l'instant, pour aller vite, « économie », peut désigner, en raison du sens de « nomos »,« nomi », l'administration d'un partage. Mais il a pu également se rapporter, ce mot « économie », dans l'une au moins de ses dimensions antiques, à la notion de « taxis », généralement traduite par place. Alors, je fais allusion au texte de Xénophon sur les économies, qui un texte dans lequel le mot taxis est un mot tout à fait essentiel. Et la bonne économie consiste à trouver, alors, la taxis pour chaque chose. Peut-être il faudrait compléter et dire pour chaque chose au moins les choses produites, c'est-à-dire qui résultent d'une opération technique. Et donc le vieux grec dit taxis et associe l'économie au fait de trouver la taxis qui convient. Alors comment traduire ça ? Donc généralement on traduit par place. Et puis je me suis aperçu dans le séminaire et j'allais dire dans les discussions autour du séminaire, même si je peux dire dans les séances bistrot, parce qu'en fait je vais faire allusion à la partie bistrot du dernier séminaire, dans laquelle Alexandre Costanzo a proposé, et je trouve une excellente traduction pour taxis, le mot « endroit ». Trouver le bon endroit. Alors, si je dis ça, j'enlève peut-être une partie des difficultés qui nous viennent à l'esprit quand on dit le mot place. Trouver le bon endroit. trouver l'endroit. Ça serait une tâche, si vous voulez, de l'économie. Trouver l'endroit. Voilà. Je proposerais donc de dire désormais « endroit » pour traduire « taxis » et définir dès lors l'économie comme la recherche du bon endroit pour quelque chose. Ou l'idéal de l'économie, ça serait de trouver le, ou de définir le bon endroit pour quelque chose. Alors, y compris, je reprends le mot, quelle est la place du travailleur dans une entreprise? Où est-ce qu'il faut qu'il se mette? Quelle est la place de la machine? Quelle est la place du produit, etc. Où est-ce qu'on va l'entreposer, etc. Bon, est-ce qu'il y a des endroits meilleurs que d'autres? Vous voyez, ça serait la tâche de l'économie que de s'occuper des endroits où sont les choses, que cet endroit soit transitoire ou moins transitoire. Bon. Alors, ça serait de recherche, ce travail que j'imagine à l'instant, pour deux raisons. La première tient à ce que, justement, le bon endroit est à trouver, que le bon endroit n'est pas donné naturellement, comme il l'est dans le cas de l'arbre, parce que ce qui est affaire de mise en place n'est pas advenu par la nature, mais est soi-même de l'ordre d'un ajout ou d'une adjonction aux données mondaines. L'affaire d'économie, ça serait de trouver le bon endroit pour les choses que les activités humaines ont ajoutées aux données de la nature. Et là, je suis dans la compréhension grecque de la techné par rapport à la physis, de la technique par rapport à la nature. Donc ça serait une recherche, parce que de toute façon, l'économie est une recherche. La pratique de l'économie serait, dans cette hypothèse, une recherche. Il faut trouver l'endroit pour les choses qu'on produit. Voilà. Seconde raison pour laquelle ça serait une recherche, c'est que ça tient à ce qui peut être attendu de mieux d'une économie. Peut-être qu'il faudrait chercher ce qu'on peut attendre de mieux d'une économie. La signification de « bon » quand je dis la tâche de l'économie, ça serait de trouver le bon endroit, la signification de bon n'est pas elle-même a priori fixée. Est-ce qu'il s'agit de trouver, je reviens au séminaire de l'année dernière, à la fin, un bel et bon endroit, kalos kagatos, non seulement bon, mais beau. Est-ce que c'est une question pour l'économie, de trouver les beaux endroits? Après tout, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas chercher si une économie peut s'occuper du bel endroit pour quelque chose. Bon. Alors ne soyons pas trop exigeants et disons peut-être qu'il y a des endroits qui sont seulement bien, c'est déjà pas mal. Hein, que ce soit de bons endroits. Voilà. Ou peut-être, soyons encore moins ambitieux, dire au moins trouvons ce qui serait les endroits utiles. Et vous savez qu'à cause de textes d'Aristote, je pense qu'on peut comprendre utile comme convenant. Voilà. Quels sont les endroits qui conviennent? Voilà. Et si on est encore moins ambitieux, on pourrait dire quels sont les endroits pour que ça ne nuise pas, que ça ne soit pas trop mauvais. Voilà. Donc il y aurait des tas de réflexions à faire. Voilà. Je veux bien que dans la pièce où je me trouve, quelqu'un mette la lumière. Merci. Sixième remarque. En attendant donc que mon rêve de recherche sur la notion d'économie soit accompli, c'est une recherche qu'aucun économiste ne prendra au sérieux. Je pense que vous avez bien compris. Ah si.
Peut-être.
Ah peut-être. Là, tu me diras. Alors tu me diras. En attendant en tout cas que cette recherche soit accomplie, je soutiens. Que je soutiens d'une part que la vivacité existentielle peut être corrélée à des formules comme « pas le même », que j'ai employé plusieurs fois, enfin j'espère en tout cas. Hein, la vivacité existentielle, je la corrélerai volontiers, ou je vous propose de la corréler à des formules comme « pas le même », « pas deux à la même place », premièrement, ou d'une part, et d'autre part, je soutiens que fait erreur, et même pour ainsi dire se compte du mal, en tout cas prend une direction problématique, pour le moins, une société qui mesure son sens de l'égalité à la possibilité pour des êtres différents d'occuper une même place. Et je pense que ça, ça nous concerne beaucoup aujourd'hui, quand on prétend, dans nombre de discussions soi-disant politiques, de mesurer l'égalité au fait que des êtres différents peuvent occuper les mêmes postes. Alors on dit poste, moi je dis place, mais ça revient au même. Voilà. Une société qui mesure, qui mesurerait son sens de l'égalité à la possibilité pour des êtres différents d'occuper une même place, fait en réalité valoir l'indifférenciation. Elle neutralise la différence. Et je l'affirme un peu brutalement, mais c'est en même temps un renvoi. Pour ma part, je pense, depuis mon livre « De l'un à l'autre », c'est en écrivant ce livre que c'est l'idée que je veux dire m'est venue et que j'espère l'avoir un peu soutenue dans le livre en question. Je pense depuis « De l'un à l'autre » que le pouvoir, le despotisme aussi bien, on peut dire le pouvoir, on peut dire le despotisme, si je reprends le langage de mon actuel séminaire, je pense donc depuis « De l'un à l'autre » que le pouvoir, le despotisme, si vous préférez, s'entretiennent de pareille neutralisation de la différence. Le pouvoir est neutre du point de vue de la différence, par exemple la différence des corps. Le pouvoir se moque de la différence des corps. Il veut des trucs et des machins qui occupent des fonctions telles qu'il les entend. Ouais. J'ajoute aussi que le despotisme et le pouvoir s'opposent à la vivacité. C'est dans la mort, je signale pour terminer cette remarque, qu'il n'y a plus de différence. Et donc, je ne suis pas loin de penser peut-être que le pouvoir, en tant qu'il neutralise la différence, s'il est vrai, après tout, il faut vérifier, mais supposons que cette thèse soit vraie ou intéressante, s'il est vrai que le pouvoir neutralise, il y a quelque chose entre le pouvoir et la mort, un rapport, il y a une morbidité au fond, quelque part, du pouvoir, dans la mesure où la mort, c'est quand il n'y a plus de différence. Et la vivacité, c'est la possibilité de différer, pas de différer au sens de remettre à plus tard, hein, mais d'être dans la différence. Enfin, dernière remarque introductive, ça ferait une longue introduction pour ce soir, ça ira mieux après. Voilà. Ce qui ne supporte pas la différence, donc je dis autrement ce que je viens de dire en fait, ce qui ne supporte pas la différence, ce qui préfère le cas échéant l'anéantissement de l'autre à son existence, c'est le pouvoir. Le pouvoir est ce qui tend à identifier, à classer, à figer, à fixer des existences. C'est le pouvoir qui a besoin que nous ne soyons pas mobiles, que nous ayons... Ça, c'est des remarques qu'on peut trouver, par exemple, chez Benjamin, hein, l'invention de l'adresse au XIXe siècle. Voilà. Le fait qu'il faut être repérable, fixé quelque part, le domicile fixe, hein, qui fait le pouvoir et la lutte contre les cheminots au 19e, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas qui cheminaient, hein, qui n'avaient pas de domicile fixe. Le pouvoir s'inscrit moins... Donc, le pouvoir, pardon, est ce qui tend à identifier, à classer, à figer, à fixer les existants. Le pouvoir s'inscrit moins dans le devenir de l'être que dans le devoir-être. Le pouvoir, c'est ce qui nous dit ce que nous devons être. Mais le pouvoir n'attend pas que nous bougions des places qu'il nous désigne, évidemment. Et donc je dis qu'il s'inscrit moins dans le devenir de l'être que dans le devoir-être. La phrase « ceci doit être », qui en fait est un impératif, c'est un impératif poli, hein, c'est-à-dire « tu dois faire ceci », c'est fait, ceci. La phrase « ceci doit être », qui en fait est un impératif, est une phrase de pouvoir. Et donc, question, dans la mesure où la morale dit ce qui doit être, ou dit ce qu'il faut dire, il y a peut-être quand même un rapport avec le pouvoir. Ça serait bien, ou ça serait beau, si ceci était, est une phrase d'un autre genre. Ceci doit être, c'est une phrase de pouvoir. Ça serait bien ou ça serait beau si c'était. C'est une phrase, je crois, d'un autre genre. Et je vous laisse, si vous voulez, méditer là-dessus. Alors, est-ce que je passe à la séance du jour? Il est temps. Alors, je reviens à une formule de la dernière fois. Je pense que vous en souvenez, l'être en défaut d'origine. Ça vous dit quelque chose? Oui. Donc, par définition, l'être en défaut d'origine, appelons cet être humain, l'humain, l'être en défaut d'origine n'est pas originellement ou nativement muni. Alors, si vous avez, le petit travail que je vous demande, c'est d'accepter de traduire à chaque fois que je dis l'être en défaut d'origine, c'est comme si je disais les humains. L'être en défaut d'origine n'est pas originellement ou nativement muni. S'il l'était, il ne serait pas en défaut d'origine. Il ne serait pas, comme on dit, une pièce d'origine. Il ne serait pas en défaut d'origine. L'être en défaut d'origine n'a pas ce qu'il faut. Pour être, il n'est pas de lui-même, ni même pour commencer, par lui-même, équipé pour vivre. Équipé suffit. L'être en défaut d'origine n'est pas de lui-même, ni même pour commencer, par lui-même, équipé. Il faut donc, s'il doit être équipé, il va être équipé par d'autres que lui. Donc, d'entrée de jeu, l'être en défaut d'origine ne peut pas ne pas être, comment dire, articulé à de l'autre. Voilà. Puisqu'il n'est pas muni. Il convient, par conséquent, que nous nous intéressions, je crois, aux convenances. Alors, le convenance, je le dis le mot exprès comme ça, pour faire entendre que ça veut dire littéralement ce qui vient avec. Ce qui convient à ma naissance, c'est ce qui vient avec, enfin, ce que je trouve avec moi, ou ce qui est déjà là pour moi, avec moi. Ce qui convient, ce qui me convient pour que je puisse perdurer dans l'être. Et devenir ce que je peux devenir. Voilà. Donc il convient que nous intéressions, je crois, aux convenances qui munissent l'être en défaut d'origine, qui l'équipent de l'extérieur, puisqu'il n'est pas équipé de lui-même et par lui-même, il est donc équipé de l'extérieur, exosomatiquement, pour reprendre un mot qu'affectionnait, comme vous savez sans doute, Bernard Stiegler. Chaque génération modifie, parfois invente, les munitions et les équipements qui seront ceux de la génération suivante. Il y a des inventions, les humains sont des êtres inventifs, ça veut dire que chaque génération modifie les conditions avec lesquelles, ce qui lui a convenu pour être ce qu'elle est, et parfois elle est même inventive. De temps en temps, les humains déposent des inventions dans le monde, d'autant de véritables inventions. Mais chaque génération, même si elle peut modifier pour les suivantes l'équipement du monde, elle trouve, elle, pour son compte, déjà autour d'elle, quand elle arrive au monde, des équipements. L'exosomaticité sans laquelle les humains ne pourraient exister, et même simplement vivre. Les munitions et les équipements que chaque génération trouve autour d'elle déjà quand elle arrive au monde sont, pour cette raison que c'est déjà présent, au sens strict des propositions, c'est-à-dire c'est posé d'avance pour, une proposition. Ces équipements que chaque génération trouve autour d'elle sont pour elle des propositions, à partir de quoi, mais aussi avec quoi, chaque sujet en son sein travaille dans son interminable formation existentielle. Il s'agit donc à présent, pour nous, pour moi, de les examiner dans leur dimension propre, à ces équipements et ces munitions, qui ne peut être qu'intersubjective. Je dirais même qu'il s'agit aussi que nous nous mettions de leur côté, parce que sans elles, nous serions incapables de vivre et nous ne serions pas munis pour exister. Si, en d'autres termes, vie humaine et existence il y a, et si, comme nous l'avons vu précédemment, cette vie existentielle a quelque chose en soi d'une émancipation, cette émancipation tient elle-même sa possibilité de ce que je viens d'appeler munitions ou équipements. Nous ne pouvons finalement, je ne sais pas si vous dire, oui, enfin, si l'émancipation est une notion que nous soutenons, nous ne pouvons nous émanciper, et même, je pourrais dire, passer à l'existence, modifier, etc. Enfin, toutes les notions, toutes les valeurs, entre guillemets, que j'ai évoquées la fois précédente, nous ne pouvons nous-mêmes libérer, si j'ose dire, notre dimension existentielle qu'à partir des munitions et des équipements qui nous ont été toujours proposés, qui sont toujours des propositions. Alors l'échelle d'analyse à ce niveau-là ne peut pas être celle que j'avais à l'esprit il y a 15 jours quand je disais qu'est-ce que c'est pour moi, pour chacun, l'existence. L'échelle d'analyse pour comprendre les munitions de l'existence, c'est pas l'échelle personnelle. C'est, je l'ai dit au passage, c'est au minimum intersubjectif, ou alors commun au sens banal du mot. Hein. Ce qui munit l'être en défaut d'origine, c'est une résistance ou une insistance de munitions, d'équipements. Il faut qu'il y ait des équipements et des munitions qui insistent, qui résistent, pour que nous puissions chacun être munis et éventuellement nous départir de ces munitions et devenir chacun selon son fil existentiel. Comme le dit Michel Guérin dans sa lecture de Le Roi Gourand, l'atelier de l'humanité est par définition plus durable que chaque génération et il n'y a pas d'outillage qui n'ait fait l'objet d'une transmission. Il n'y a pas d'outillage, ça c'est Le Roi Gourand. Pas d'outillage qui n'ait fait l'objet d'une transmission, c'est-à-dire qu'il soit stocké. Alors c'est Le Roi Gourand, c'est Michel Guérin, c'était aussi Bernard Stiegler. Il n'y a pas d'outillage qui ne soit stocké dans une mémoire plus longue que les mémoires individuelles. Donc par le fait que nous ne pouvons pas ne pas être munis, équipés, etc., par des propositions qui sont autour de nous déjà quand nous naissons, en réalité nous sommes reliés, chacun d'entre nous, à une mémoire qui est beaucoup plus profonde et beaucoup moins personnelle que la mémoire que je viens d'appeler individuelle. Donc il faut penser à ça. Ce qui munit l'être en défaut d'origine, donc, c'est la résistance ou l'insistance de tout un équipement, de tout un outillage qui est plus long qu'une seule génération, qui est toujours plus long qu'une seule génération. Et puis, d'autre part, il faut préciser que cela que je viens d'évoquer, doit être en résistance ou en insistance s'il est vrai qu'il n'existe pas de personnalité, ou plutôt s'il est vrai qu'il n'existe de personnalité que par distanciation avec ce qui lui est proposé. Hein. Il faut bien que des propositions autour de nous insistent ou résistent pour que nous puissions nous en distancier et donc être chacun existant personnel. L'exigence que nous pouvons avoir à l'égard de ce qui insiste pour nous, c'est que cette insistance ne tourne pas à la fixation ou au blocage. C'est-à-dire que les équipements sans lesquels nous ne pourrions pas exister, il faut qu'ils insistent, etc. Le problème, c'est pas qu'ils insistent, c'est pas qu'ils soient là, c'est pas qu'il y ait des choses non personnelles autour de nous qui nous équipent, etc., qui nous conviennent même. Le problème, ça serait que ce qui doit, ne peut pas ne pas insister autour de nous, exosomatiquement, etc., c'est qu'il ne faut pas que ça tourne, si j'ose dire, à la fixation ou au blocage. Il ne faut pas que ça nous bloque, il ne faut pas que ça nous fixe. Et le problème, c'est que des brèches ou des percées puissent demeurer possibles de l'intérieur même de ces munitions, de ces équipements, de cet outillage qui nous permet d'exister par différenciation. Dans ces cas-là, pardon, je saute une phrase de mes notes, la tâche de toute réflexion, je crois, sur la notion d'émancipation, c'est d'examiner les cas dont l'histoire témoigne abondamment où l'exigence que ça ne tourne pas à la fixation ou au blocage n'aura pas été satisfaite. Dans ces cas, quand, au fond, le maintien de l'outillage, le maintien des équipements, le maintien des munitions, quand ça devient une priorité, d'une certaine manière, quand entretenir l'outillage devient une fixation, et qu'il n'y a plus de place pour se libérer de ça. Dans ces cas-là, la mobilité commune, qui tient, comme j'ai essayé de le dire la fois précédente, à la demeure éthique des sujets, dans ces cas-là, cette mobilité qui tient à la demeure éthique des sujets, cette mobilité commune, elle est interpellée, et ainsi interpellée, elle est arrêtée et suspendue. Alors, je pourrais décrire tout ça. Je ferai une précision, je ne sais plus ce que j'ai envisagé, est-ce que c'est la prochaine fois ou la suivante, pour dire, par exemple, qu'une traduction très concrète de ce que je viens de dire de façon très générale et très abstraite, c'est d'interroger les situations qui produisent, dans lesquelles on produit des équipements pour l'humanité, et dans laquelle ceux-là même qui sont les producteurs ne peuvent pas toucher à l'outil de travail. Ne peuvent pas toucher à l'outillage. L'outillage s'impose. Voilà. Et ça fixe et ça bloque, etc. Et probablement que ça, même si c'est économique au sens relativement ordinaire du terme, pas celui que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, ça fait mal aux existences. Voilà. Alors si je m'exprime en ces termes, si je ne suis pas aussi simple que je pourrais l'être, voilà, si je m'exprime dans les termes avec lesquels, un peu compliqués ou inhabituels, avec lesquels je me suis exprimé, c'est en fait en raison, c'est d'abord en tout cas en raison des excès totalitaires du XXe siècle, sur lesquels je voudrais revenir ce soir. Je crois qu'il faut caractériser ces excès. En quoi y a-t-il eu excès ? Alors, j'espère que j'ai quand même un peu mis l'ambiance, parce que dans les excès totalitaires du XXe siècle, vous retrouvez les convocations en masse de nous autres, de nous tous, et je vais y revenir, vous allez trouver une gestion de l'outillage qui ne tolère pas la modification. Par ceux-là même qui sont les metteurs en œuvre de l'outillage en question. C'est-à-dire, il n'est pas question d'exister au travail. Être au travail, oui, il en est question. Mais exister au travail, c'est ça que j'essaye d'interroger. La possibilité d'exister au travail, pas d'y être seulement. L'une des plus judicieuses remarques que j'ai jamais lues pour caractériser l'excès totalitaire, alors, ça va vous sembler dans un premier temps moins décalé par rapport à tout ce que je viens de dire, mais patience, je refais le calage dès que possible. L'une des plus judicieuses remarques que j'ai jamais lues pour caractériser l'excès totalitaire du XXe siècle, c'est celle de Sébastien Hafner, donc auteur allemand, disant que le visage du nazisme s'était dévoilé à lui un soir de 1933, où, alors qu'il dansait avec une amie de rencontre dans une salle de bal, il reçut d'un chef de groupe, je pense que c'était les SA à l'époque, les sections d'assaut de l'hitlérisme, il reçut d'un chef de groupe venu mettre de l'ordre dans ce qui était un espace social, il était avec une amie dans une salle de bal, il dansait, il reçut donc d'un chef de groupe qui venait mettre de l'ordre là-dedans, une descente, il reçut l'autorisation de rentrer chez lui. Et il commente ça en disant, c'est là que j'ai vu le visage du nazi, lequel lui a dit, je vais commenter bien sûr, il ne lui a pas dit, plutôt je veux dire dans l'autre sens, il ne lui a pas dit, rentrez chez vous, ce qui aurait signifié que lui, le chef de groupe, il était en train de prendre une mesure de fermeture de l'espace social où Sébastien Hafner et son ami se trouvaient. Donc, peu importe qu'il ait le droit de le faire ou pas le droit de le faire, il n'était pas policier, mais quand même, il se donnait le droit de police, etc. Bon, et il aurait pu dire, on ferme la salle de bal, rentrez chez vous. Il n'a pas dit ça. Et c'est là que Sébastien Hafner dit, alors, il commente pas comme je vais commenter moi dans un instant, mais quand même il dit c'est là que j'ai vu le visage du nazi. Et c'est, moi je me demande mais pourquoi c'est là qu'il l'a vu. Il lui fut dit donc non pas rentrez chez vous, mais vous avez le droit de rentrer chez vous. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire vous avez le droit de rentrer chez vous plutôt que rentrer chez vous? Alors ça se trouve dans Sébastien Hafner, Histoire d'un Allemand, qui a été publié en 2002 chez Actes Sud, et le passage se trouve page 175, et je l'ai commenté dans la réédition de Art et Industrie en introduction. Dans la nuance entre les deux phrases, rentrez chez vous, qui serait un impératif, et vous avez le droit de rentrer chez vous, dans la nuance se signalent deux traits caractéristiques des mondes totalitaires, selon moi. Alors je vais exposer le premier trait, et pour le second, il va vous falloir un petit peu de patience, parce que le temps que j'expose le premier, vous pourriez avoir le sentiment que j'ai oublié qu'il y avait deux traits à présenter. Ben non, ça va juste la présentation du premier trait. Donc il y a deux nuances à marquer entre la phrase « rentrez chez vous » et « vous avez le droit de rentrer chez vous ». Premier trait caractéristique du monde totalitaire que je voudrais donc signaler, il concerne la demeure, ce que j'ai appelé la demeure lors de la première séance, où demeure où parce qu'on n'est pas à la vue et au su de n'importe qui, on peut se livrer à ses proches, à ses intimes, à l'intimité en général. Donc la remarque du nazi, elle concerne la demeure, le chez-vous. Hein, vous avez le droit de rentrer chez vous. Bon, qu'est-ce que c'est que le chez-soi? Donc c'est ce que j'appelle la demeure dans les séances précédentes, c'est-à-dire un endroit où on n'est pas à la vue et au su de quiconque, de n'importe qui, et où on peut se livrer à ses proches, c'est-à-dire dire sans précaution, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ou je suis fatigué, ou tu ne voudrais pas... Enfin bon, on se livre à ses proches, à ses intimes, à l'intimité d'une manière générale. Alors, amener, comme elle l'est ici, au rang d'une possibilité. Rentrer chez vous, ça veut dire vous avez un chez vous. Vous avez le droit de rentrer chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire quant au chez vous? C'est amener au rang d'une possibilité. Vous pouvez. Et elle est dans ce cas-là, la demeure, de fait, pas ou plus considérée comme un principe indiscutable de l'existence. Vous pouvez rentrer chez vous veut dire que le chez vous n'est plus un principe indiscutable de l'existence. Il faut qu'une possibilité vous en soit accordée. Il y a une rétrogradation statutaire du chez soi, de la demeure, entre les deux phrases. Cette rétrogradation statutaire de la demeure, comme malheureusement nous le savons, ou devrions le savoir, ou devrions y penser, l'organisation des camps la manifestera à son tour de manière systématique, puisque un camp, qu'est-ce que c'est un camp? C'est un endroit dans lequel l'intimité est impossible. Et en fait, elle l'avait déjà manifesté, parce que ça avait déjà commencé, tout ça. La rétrogradation statutaire de la demeure, qui n'est plus un principe, mais une possibilité, l'organisation des camps la manifestera, elle qui se fonde sur une incessante et pour cette raison destructrice exposition des intimités personnelles. Mais nous pouvons également, je crois, nous inquiéter aujourd'hui, ou nous pourrions également nous inquiéter aujourd'hui en pensant à la gestion invasive des techniques de l'Internet, pardon, des techniques de prise de données personnelles dont de grandes entreprises de l'Internet et de la télécommunication contemporaine sont capables. En définitive, est-ce que nous ne devrions pas redouter d'être dans nos demeures mêmes comme exposés, en tout cas observés, et en certains de nos gestes ou en certaines de nos opérations, captés ou capturés? Est-ce que nous ne serions pas inspirés également de nous méfier d'un certain nombre de pratiques scopiques qui se justifie de s'inscrire au registre d'une veille, je pense aux caméras de surveillance, à toutes ces choses-là, hein, ou à les reconnaissances faciales, enfin, toutes choses qui ont été merveilleusement testées, parce qu'il paraît que c'était une grande réussite pendant les Jeux Olympiques. on n'a pas tout à fait pensé à tout ce qui se passait de ce côté-là, dans les capacités à capter. Est-ce qu'on ne serait pas inspiré de se méfier d'un certain nombre de pratiques scopiques qui se justifient de s'inscrire au registre d'une veille, on veille sur vous ? Rassurez-vous, hein, sécurité, pas sûreté, mais sécurité, on veille sur vous. Donc des pratiques scopiques qui se justifient de s'inscrire au registre d'une veille, mais qui sont en fait de l'ordre de ce que je pourrais appeler, bon, jouer un peu sur les mots, une surveille, une surveillance. Il y a trop de veille, dans une certaine mesure. Alors j'ai une note de bas de page qui est peut-être un peu longue et qui concernerait la lecture qui m'a beaucoup marqué dans la préparation de ce séminaire, qui est celle de Georges Bernanos dans La France contre les robots ou le film de Jean-Marie Strong. Et j'ai peur que ça soit un petit peu long si je lis cette note. Bon, simplement, je vais dire que... je crois que le mot totalitaire est déjà dans le texte de Bernanos, et je pense que c'est pour ça que Jean-Marie Strouve a fait le film qu'il a fait. C'est parce qu'il a lu le livre de Bernanos comme étant une formidable contre-théorie, enfin théorie critique du totalitarisme. Pour Bernanos, l'époque totalitaire n'a pas été achevée par la paix de 1945. Il pense que cette paix a été jouée, comme on dit, on joue avec la paix, on joue avec les nerfs, etc. On fait semblant. Pour lui, il le dit très très tôt. On est toujours en guerre, en réalité. C'est-à-dire, on est toujours dans ce qui a produit la guerre, à savoir le totalitarisme, en l'occurrence celui qui est passé par les nazis, mais pas seulement. Voilà. Donc il n'y a pas de paix pour Bernanos après 1945, sinon une paix jouée, on fait semblant. Voilà. Et ce qui serait la thèse de Bernanos, et c'est une quasi-citation, l'époque totalitaire, comme il dit quasiment, implique qu'il soit fait la guerre à l'existence intérieure, c'est-à-dire au chez-soi. Et c'est ça les robots chez Bernanos, c'est le développement des techniques invasives, convocantes, enfin vous pouvez remonter tous les adjectifs que j'ai essayé de mettre en place dans la méditation, et qui font que on sera sécurisé, mais pas en sûreté. Bon, je passe, et si j'avais fait toute ma note de bas de page, je vous aurais aussi renvoyé à propos de robotisation de la vie et de disparition des espaces intimes ou privés, un livre de Eyal Weissman qui a été publié en 2001 et traduit en France en 2008 aux éditions de La Fabrique, « À travers les murs, architecture de la nouvelle guerre urbaine ». Je vous renvoie à ce petit livre absolument bouleversant, sur le plan, sur plein de plans. Bon, fin de la note de bas de page, donc du coup, je suis moins long que si je l'avais fait intégralement, et je passe au deuxième trait. Hein, de la distinction entre rentrer chez vous et vous pouvez rentrer chez vous. Donc, second trait, il tient alors à l'évitement de l'impératif dans la formulation qui est censée définir l'ordre. Rentrer chez vous, il y a un impératif et ça définit un ordre au sens grammatical et au sens, sociopolitique, si vous voulez parler vite. Hein. Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas d'impératif. Voilà. Alors c'est un paradoxe, parce que je suis en train de dire que les régimes totalitaires sont liés à la disparition de l'impératif. Mais je vais vous montrer que je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Et que de toute façon, on peut se poser la question. Alors Agamben, de son côté, a souligné combien la législation à l'époque nazie pouvait éviter l'impératif et utiliser ce mode a priori étrange pour un énoncé législatif, il est possible. Et c'est effolant parce que vous ne savez pas si vous devez ou pas. Alors, j'ai critiqué le devoir-être tout à l'heure, mais ça n'empêche pas. On pourrait imaginer un ordre qui s'assume et qui dit, qui parle à l'impératif. Hein, ça doit être. Voilà. Là, c'est plus compliqué parce que l'impératif disparaît et l'énoncé, c'est « il est possible ». Et Agamben a fait remarquer que nombre de textes législatifs nazis utilisaient cette formule qui ne dit ni « c'est interdit » ni « il faut ». Cet évitement de l'impératif retourne en quelque sorte la loi. Elle n'interdit pas, cette formule, elle n'oblige pas, mais elle permet. Le fait qu'un régime totalitaire n'ait pas exclu cette permissivité ne peut manquer, je crois, de nous intéresser. Nous qui, bien entendu, pensons que nous ne sommes pas en situation totalitaire. On ne cesse de se dire ça, nous. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la permissivité? Qu'est-ce qu'on pense du « il est possible » qui prend la place du « il faut » ou « il est interdit » Le fait que donc un régime totalitaire n'ait pas exclu la permissivité ne peut manquer, je crois, de nous intéresser, nous qui réfléchissons en particulier sur l'émancipation, et qui connaissons, je vous assure que j'avais écrit ça il y a déjà plusieurs semaines, et nous, ça ne peut que nous intéresser, ce que j'essaye de dire, je pense en tout cas, nous qui connaissons à présent toute l'influence d'Elon Musk, quant aux permissions, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le combat que mène l'État américain ces temps-ci, c'est au nom de la liberté d'expression. C'est-à-dire, il n'est pas interdit. Il me semble que ça peut nous intéresser, donc toute cette réflexion, nous qui connaissons à présent l'influence d'Elon Musk quant aux permissions qu'il convient, selon lui, de laisser aux expressions langagières, quelle qu'en soit la nature. Sommes-nous, tant que nous croyons, capables de penser à l'inverse? Et dans l'hypothèse où nous souhaitons donner un contenu positif à la notion d'émancipation, sommes-nous prêts à ne pas lier cette notion à celle de permission? Est-ce qu'il ne conviendrait pas que nous distinguions la liberté de la libération du laisser-aller et du rendre possible? C'est-à-dire, je pense à... Alors, évidemment, je sais bien... c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Travailler dans le champ des possibilités, ce qui serait une définition de la technique. Il est possible, etc., et on fait advenir impossible. Mais rendre possible, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Rendre possible, est-ce que c'est ça que nous allons lier, nous, qui envisageons peut-être de soutenir la notion d'émancipation ou de libération? Est-ce que nous ne serions pas aspirés de penser que l'être dans la possibilité n'est pas acceptable sans condition? Je vous rappelle les mots d'ordre. Hein. Yes, we can. Il était charmant, le président, qui se présentait avec ce mot d'ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est affirmer la possibilité pour elle-même. Yes, we can. Ou bien, on avait une variante, ensemble, tout est possible. On a connu ça. Voilà. Moi, ça m'a toujours semblé quand même problématique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça? Est-ce que l'être dans la possibilité est acceptable sans condition? Est-ce que c'est une perspective pour l'existence, non pas de faire avec les possibles, mais de rendre possible? Vous pouvez rentrer chez vous. Ayant à l'esprit le lexique d'Arendt, je dirais que toute opération que des humains peuvent se permettre, émancipation incluse, doit être liée à des principes. Je vais commencer à faire de la politique. Là. Enfin, commencer à parler politique. Arendt, il me semble qu'elle disait ça, et ça m'intéresse beaucoup. Toute opération que les humains peuvent se permettre, émancipation incluse, doit être liée à des principes. Alors j'aurai l'occasion de revenir sur ce mot et d'en travailler la signification, en tout cas chez Arendt, car s'il semble bien avoir l'avantage de prémunir contre une pratique affolante de la loi, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des principes. Il implique aussi littéralement l'idée d'une primauté ou d'un prévaloir, princeps le premier. Hein, donc le premier qui serait... Je pense au livre de Catherine Malabou, le fait qu'il y ait des principes sur les, qui seraient d'une certaine manière indépassables, hein, qui limiteraient le champ du rendre possible ou du possible, le fait qu'on ne va pas tout se permettre. Il y a des principes qu'on ne peut pas outrepasser. On peut dire que c'est embêtant parce qu'en fait, dans ce cas-là, ça c'est le livre de Catherine Malabou résumé à très gros traits, comment penser l'anarchie, l'anarchie, c'est-à-dire, c'est un mot grec, si je parle latin, je dirais absence de principe, archi, principe, princeps, le premier, arcane, commencer, enfin bon. Alors, est-ce que la position d'Arène sur qui soutient les principes n'est pas embêtante, parce que finalement, elle empêche de penser quelque chose à quoi il serait peut-être bon qu'on pense quand même, et qui pourrait s'appeler... l'anarchie. Et puis peut-être aussi que ce que je dis à l'instant sur les principes, la référence aux principes chez Arendt, comment ça peut être compatible avec la critique que je faisais il y a 15 jours de la prescription morale des existences. Est-ce que c'est pas ça justement qui serait une vertu de la morale, c'est de nous donner des principes. Voilà. Alors je pense qu'il va falloir revenir sur cette question thèse d'Arendt, en gros, que toute opération que des humains peuvent se permettre doit être liée à des principes. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par principe, étant donné qu'on peut, à principe, faire des objections, l'absence de soutien possible à la notion d'anarchie, et puis, deuxième objection, venez pas nous embêter avec votre critique de la morale. La morale, c'est le lieu des principes. Voilà. Est-ce qu'on peut penser principe sans penser ipso facto morale? Et je pense que oui. Il faut justement comprendre qu'est-ce que c'est qu'un principe en politique. Je vais essayer d'y venir petit à petit. Justement, ce que nous aurons à comprendre en nous appuyant justement, s'il le faut, sur Arendt, c'est que dans l'idéal de la politique, il ne s'agit pas de discuter des buts, mais des principes d'une action. Ça, j'y reviendrai. Il me semble avoir lu ça chez Arendt. En fait, je vais au bout des notes que j'ai sous les yeux sur la question, et peut-être après j'ai fait un petit mot de commentaire. Les principes d'une action. Donc, je pense avoir lu ça chez Arendt. L'idéal de la politique, c'est pas de discuter des buts d'une action, mais des principes d'une action. Alors déjà, si les principes sont l'affaire d'une discussion, c'est qu'il n'y a pas de principe indiscutable. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, peut-être, on peut à la fois opérer une critique de la prescription morale et en même temps soutenir la notion de principe pour cadrer, limiter les champs de possibilité des actions humaines. Les principes, puisque discutés, puisque dans la résultante d'une parole qui discute, ne sont pas donnés d'avance. Les principes tels que Arendt les définissait ne sont pas donnés d'avance. Ce ne sont pas des propositions au sens de tout à l'heure. C'est le résultat d'une discussion au nom de quoi nous allons faire quelque chose. Ça se discute. C'est pas arrêté d'avance. Et je pourrais peut-être vous suggérer de noter au passage que dans l'hypothèse que le principe ou les principes sont les résultats d'une discussion, c'est-à-dire sont l'affaire d'une politique où on discute, dans cette hypothèse-là, quand, à l'inverse, la politique n'est pas idéale, parce que je viens de dire, l'idéal de la politique, c'est de discuter des principes. Mais quand la politique n'est pas idéale, ou ça revient au même, quand on n'est pas idéaliste, mais réaliste en politique, on admet de discuter des buts dont les principes, eux, ne sont pas discutés. Un réaliste en politique, c'est quelqu'un qui est capable de discuter du but de ce qu'il fait, mais qui discute pas des principes. Et Arendt, elle dit le contraire. Elle dit l'idéal de la politique, enfin, en tout cas, j'ajoute peut-être ce mot, mais l'idéal de la politique, c'est de discuter des principes et pas du but des actions. Voilà. Bon, en attendant qu'on puisse trancher sur ces questions, et afin de mieux comprendre ce que j'ai appelé tout à l'heure l'excès totalitaire, et j'ajouterai, excusez-moi de compliquer encore les choses, tout en souhaitant implicitement au moins me séparer des thèses d'Ernst Jünger sur le sujet que je vais nommer à l'instant, parce que je vais prendre une formule qui est proche d'une formule de Jünger, mais je n'y peux rien. Afin de mieux comprendre ce que j'ai appelé tout à l'heure l'excès totalitaire, je nommerai volontiers de mon côté mobilisation générale, pour mieux comprendre ça, ce que je nomme de mon côté, ce que je nommerai volontiers de mon côté sous ce label-là, mobilisation générale. Je voudrais évoquer l'ouvrage de Chapoutot, Libre d'obéir, publié en 2019. Dans cet ouvrage, je cite l'auteur, « Il s'agit, à l'heure où le management occupe autant les esprits que jadis la question du salut, à l'heure où les directions du personnel sont devenues des GRH pour gestion des ressources humaines, de prendre... Il s'agit, à l'heure où le management occupe autant les esprits que jadis la question du salut, à l'heure où les directions du personnel sont devenues les GRH, il s'agit donc de prendre à la fois hauteur et recul. Pourquoi, dans quel contexte et pour répondre à quels besoins des nazis ont-ils réfléchi à l'organisation du travail, à la répartition des tâches et à la structuration des institutions dans l'administration publique et dans l'économie privée. Quelle pensée du management ont-ils développé? Que devenait le travail, l'individu ou encore le service public et l'État dans ces réflexions? Fin de citation. Ces questions, Chapoutot les pose en pensant qu'il y a une continuité entre les choix législatifs des nazis, leur conduite de l'État, d'une part, et d'autre part, il y a une continuité entre ces choix législatifs des nazis, leur conduite de l'État, et d'autre part, toute une organisation de l'entreprendre au sein de la société, c'est-à-dire au sein de ce que j'appelle de mon côté, depuis le début de ce séminaire au moins, économie. Pour lui, c'est tout un. Pour Chapoutot, c'est tout un. La conduite, les choix législatifs des nazis, la conduite de l'État, l'organisation de l'entreprendre au sein de la société, c'est tout un. C'est à réfléchir sur la condition de cette unité que je voudrais peu à peu nous convier. Le totalitarisme, c'est quand, au fond, entre économie et politique, il n'y a pas d'hiatus. Voilà. Il n'y a pas, par exemple, de discussion politique pour discuter des principes de l'économie, par exemple, qui sont quand même de l'entreprendre, l'économie. Donc je voudrais petit à petit qu'on se mette à discuter de ça. Mais d'abord, il faut noter, s'il vous plaît, que l'organisation ou l'organisation sociale dont il s'agit, dans le sujet que je suis en train d'aborder, n'est pas limitée à la période nazie. Chapoutot entend, je le cite, verser des éléments à la thèse de la modernité du nazisme, de son inscription dans notre temps et notre lieu, le monde contemporain. Le texte date de 2019. Je rappelle. Ces éléments, je cite encore, deviennent plus intéressants encore lorsque l'on constate que la conception nazie du management a eu des prolongements et une postérité après 1945, en plein miracle économique allemand, et lorsqu'on constate que d'anciens hauts responsables de la SS en ont été les théoriciens, mais aussi les praticiens heureux, réussissant une reconversion aussi spectaculaire que rémunératrice. Fin de citation. Globalement, il s'agit dans le livre de Chapoutot de montrer que, je cite encore, les jeunes juristes universitaires et hauts fonctionnaires, les jeunes juristes universitaires et hauts fonctionnaires du Troisième Reich ont beaucoup réfléchi aux questions managériales, car l'entreprise nazie faisait face à des besoins gigantesques en termes de mobilisation, je souligne, évidemment. L'entreprise nazie faisait face à des besoins gigantesques en termes de mobilisation des ressources et d'organisation du travail. Ils ont élaboré, paradoxalement, tous ces jeunes gens, universitaires, juristes, etc., ils ont élaboré, paradoxalement, une conception du travail non autoritaire où l'employé et l'ouvrier consentent à leur sort et approuvent leur activité dans un espace de liberté et d'autonomie, donc je souligne encore ce mot, car je crois que c'est un enjeu, à mon avis, pour moi, je l'espère pour vous, ou que j'arriverai à vous montrer que c'est un enjeu de dissocier émancipation et autonomie. L'autonomie est un mot que j'essaie de trouver positif pour aller vite, voilà, à cause de ce genre de choses. Donc ils ont élaboré paradoxalement une conception du travail non autoritaire où l'employé et l'ouvrier consentent à leur sort et approuvent leur activité dans un espace de liberté et d'autonomie a priori bien incompatible avec le caractère illibéral du Troisième Reich, une forme de travail par la joie qui a prospéré après 1945 et qui nous est familière aujourd'hui à l'heure où l'engagement guillemets, la motivation, guillemets, et l'implication, guillemets, par l'auteur, sont censés procéder du plaisir de travailler et de la bienveillance de la structure. Ce sont encore des citations du discours managérial. Les mots d'ordre. Bienveillance, plaisir, engagement, motivation, implication. Alors, on peut ajouter aux autres que je disais dans ma première remarque de la séance de ce soir. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Je suis en train de dresser la morale de l'époque, la morale du moment plutôt. Voilà. Alors, le mot-clé dans tout ce que je viens de vous lire, qui était essentiellement des citations de Chapoutot, c'est le mot d'autonomie que j'ai donc souligné au passage. Je le relève, ce mot, afin que nous nous en méfions désormais. Il n'est pas nécessairement si opposé qu'il semble à celui d'hétéronomie, du moins dans l'usage historique qui en a été fait et dont le livre de Chapoutot permet de retracer en partie l'histoire. Nous voyons bien que le management, en tout cas celui dont il est question dans le livre de Chapoutot, consiste à ménager des fonctions paradoxales, des postes à double contrainte, où la responsabilité de l'ordre passe à la charge de l'exécutant. Je pense que c'est ça. Il y a ça aussi dans « Vous avez le droit de rentrer chez vous ». La responsabilité de l'ordre passe à la charge de l'exécutant. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une situation d'exécution, mais l'ordre n'est pas donné, et cependant, ils en sont responsables. Il y a exécution. Je répète ma formule. Donc ça, c'est pas Chapoutot. C'est moi qui commande. On voit, il me semble, à des lectures comme celle-là, que le management, appelons-le moderne, c'est-à-dire pas seulement celui des années 30, tout ce qui a suivi jusqu'à nous, consiste à ménager des fonctions paradoxales, des postes à double contrainte, où la responsabilité de l'ordre passe à la charge de l'exécutant. Il y a exécution ou il y a exécutant, parce qu'il y a des opérateurs qui ne sont pas en situation de discuter. Ceux qui vont opérer l'ordre ne sont pas en situation de discuter. Le « vous pouvez rentrer chez vous » n'est pas discutable. Il y a exécution parce qu'il y a des opérateurs qui ne sont pas en situation de discuter. La situation relève donc de la pratique despotique de la dianoïa que j'envisageais lors de la première séance dans un langage chic. Là, c'est plus dramatique. On dit en dianoïa, bon, c'est du grec, c'est pas grave, c'est vieux, etc. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, il y a une privatisation de l'initiative, dianoïa, si vous voulez, et cependant, et donc il y a des exécutants. dès qu'il y a des exécutants qui ne peuvent dire un mot, qui ne peuvent contester l'envisagement de la chose, il y a une situation despotique. Donc il y a exécutant, parce qu'il y a une situation despotique, mais en même temps, au même endroit, dans la chaîne opératoire, il y a responsabilité. Le management de France Télécom qui a fait du bruit, c'était ça. Hein. Cette responsabilité est d'ailleurs double, puisqu'à la fois ce qu'il faut faire pour atteindre les buts, pour faire sortir ces buts de leur état de possibilité, pour les actualiser, il y a responsabilité parce que ce qu'il faut faire pour atteindre les buts n'est pas prescrit. Vous pouvez. Et l'ordre lui-même, quoique non discutable, apparaît bien comme interprétable. L'art du management, alors je ne sais pas s'il faut le qualifier de nazi, mais l'art du management qui s'est épanoui avec les nazis, et d'une certaine manière, depuis eux, quoiqu'ils aient censé avoir disparu, c'est de produire des situations dans lesquelles il faut faire quelque chose sans que ça soit clairement prescrit, sans que ça soit discutable, tout en étant par conséquent interprétable. La notion d'autonomie n'est pas nécessairement en contradiction avec la situation que je viens de décrire, qui présente l'avantage pour le donneur d'ordre, ou plutôt pour le pouvoir qui ordonne, que si échec il y a, cet échec ne peut lui être imputé à lui, le donneur d'ordre, puisqu'il n'en a pas donné. On ne peut pas lui imputer un échec. Et même, ça lui ouvre la possibilité de se retourner contre le zèle à loisir, comme on voudra, autrement dit, supposé insuffisant ou au contraire excessif de l'exécutant. Le donneur d'ordre qui n'est pas un donneur d'ordre peut dire « Ah mais j'ai jamais demandé ça. » Voilà. Ou il peut dire « Vous en avez trop fait. » Ou « Vous n'en avez pas assez fait. » Tout est possible. En définitive, la proposition formulée sous la forme légale ne peut pas être mise en cause. Je me suis bien exprimé. Ouais. En revanche, tous ceux qui ne participent pas à l'élaboration de la proposition, ou pour le dire en d'autres termes, tous ceux qui sont privés de l'exercice de la dianoïa, doivent, eux, répondre de et pour la loi. Que nombre de collaborateurs de l'administration nazie de l'État se soient reconvertis. Ou, c'est presque fini, hein, c'est le dernier paragraphe. Que nombre de collaborateurs de l'administration nazie de l'État se soient reconvertis, ou cela revient eux-mêmes. Que leur thèse se soit de fait retrouvée dans un management qui est encore économiquement le nôtre, pose, à mon sens, deux questions au moins. La première interroge la nature des sociétés dites d'après-guerre. Hein, parce que si je suis le texte de Bernanos, en fait, l'après-guerre, c'est toujours la guerre. Sous une autre... Donc, deux questions au moins à partir de tout ce que je viens de dire. La première interroge la nature des sociétés d'après-guerre. Ces sociétés se justifient, la nôtre si vous voulez, l'Europe, appelons ça l'Europe, si vous voulez. Mais c'est pas le seul nom qui suffit, mais c'est au moins un nom qui convient. Ces sociétés se justifient d'avoir été émancipées du nazisme, et donc elles se justifient de n'être pas nazies. Mais comment cette thèse pourra-t-elle être encore soutenue si décidément il se révèle qu'au niveau économique de l'entreprendre, ce sont les mêmes méthodes qui perdurent. L'argumentation jouera pour soutenir que nos sociétés sont débarrassées du nazisme et donc du management par l'autonomie, pour aller vite. L'argumentation qui voudrait dire « Non, non, nous ne sommes plus dans cette époque. Ça ne nous concerne plus. Nous sommes émancipés de ça. Nous sommes des sociétés démocratiques d'après-guerre. » l'argumentation qui voudrait soutenir cette thèse, en dépit du management, en dépit de son économie, de son organisation économique. La société qui voudrait soutenir cette thèse argumentera probablement en faisant jouer l'opposition forme-contenu. C'est-à-dire, oui, sur la forme, le management, etc., mais ce n'est pas pour le même contenu. Mais ce n'est pas pour les mêmes perspectives. Voilà. On ne fabrique pas les mêmes produits, on ne vise pas les mêmes buts, etc. Cette argumentation, en fait, reviendrait à faire jouer donc l'opposition forme-contenu. Alors on pourra dire, dans ce cas-là, comme déjà je pourrais répondre, nous pourrions répondre dans ce cas-là, comme déjà il se disait en 1934 à Paris, lors d'un congrès d'écrivains antifascistes, pour lequel Benjamin écrivit, comme vous savez peut-être, l'auteur comme producteur, on pourra répondre, ou je répondrai, avec Benjamin, si vous voulez, en reprenant ce texte de Benjamin, que ceux qui comptent, enfin non, pardon, ceux qui voudraient soutenir les sociétés d'après-guerre sorties, émancipées du nazisme, pourraient répondre que ce qui compte, c'est moins la forme que le contenu. Hein? Donc, oui... sur la forme, il y a des ressemblances dans le management, mais en fait, comme c'est pas le même pour les mêmes buts, comme je viens de le dire, excuse-moi, je me répète, on est bien différents. Selon cette argumentation, il serait pas grave que la transmission des ordres dans le monde des entreprises soit formellement la même qu'à l'époque du nazisme, puisque ce qui est transmis n'est pas en dernière analyse de même nature. À ce compte, un antifasciste et un fasciste peuvent écrire pareillement, puisque ce qui importe, c'est la teneur du message, en principe, pas la même, en effet, si c'est un écrivain fasciste et si c'est un écrivain antifasciste. Mais l'écriture est la même, c'est la même forme. Voilà. Benjamin, comme vous savez peut-être, proposait de penser la différence autrement, en mobilisant le couple conceptuel, non pas forme-contenu, mais qualité-tendance. La thèse de Benjamin était que la tendance, en l'occurrence il s'agissait d'un écrit, était relative à sa qualité, ce dernier mot étant entendu lui-même au sens du quid latin, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, de quoi c'est fait, comment ça fonctionne. C'est ça qu'il disait, voilà, si on veut faire la différence, c'est pas en mettant un autre contenu dans les mêmes formes, c'est en pensant avec un autre lexique, qualité, tendance, et dire que ce qui fait la tendance, c'est la qualité. Et la qualité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui répond à la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi est-ce fait? Comment ça fonctionne? Si ça fonctionne pareillement, ça ne peut pas être d'une autre tendance. Ça change un peu la façon de concevoir les choses, il me semble. Alors, le texte de Benjamin porte simplement sur les écrits, les écritures, etc. Mais je pense qu'on peut déplacer le champ de l'argumentation et reprendre pour le problème que j'essaye sur lequel j'essaye d'attirer l'attention ce soir et dire si c'est le même management, si c'est pas pour les mêmes produits, si... Bien que ce soit pas, si c'est le même management, bien que ce soit pas pour les mêmes produits, c'est quand même finalement la même chose. Voilà. Pour que ça soit pas la même chose, il faut que ça soit pas le même management. Alors est-ce qu'on peut manager l'économie, l'organisation du travail, etc. autrement, je pense que c'est l'enjeu. En tout cas, c'est un enjeu. Voilà. Suivant la thèse de Benjamin, on ne saurait dire qu'il peut y avoir changement de tendance s'il n'y a pas changement de fonctionnement. Et là, il faut reprendre les problèmes de traduction de Brecht, en particulier, que citait Benjamin, et tout le monde dit changement de fonction. Mais non, c'est changement de fonctionnement dont parlait le texte de Benjamin. Changement de fonctionnement. Et, bon, il ne s'agit pas de changer la fonction du management, il s'agit de changer le fonctionnement. Benjamin, se référant à Brecht, insistait bien sur ce point, que toute modification de fonction passe par un changement de fonctionnement. Alors je reprends cette thèse ou cette argumentation de Benjamin ici pour dire que ce que signifie le fait que les sociétés d'après-guerre, dans leur fonctionnement économique de base, continue à recourir à des modalités managériales que les nazis avaient eux-mêmes produites, le fait qu'il y ait ça, c'est quelles sont ces sociétés et que par conséquent, nous qui les habitons, nous sommes toujours dans la tendance qui a rendu le nazisme possible. Le fait qu'il y ait la même sorte de management dans les sociétés qui ont mené à la guerre de 39-45 et celles qui ont suivi signifie que ces sociétés, certes, elles ne produisent pas les mêmes contenus, si vous voulez, les mêmes résultats, etc., mais elles sont toujours dans la tendance qui a rendu le nazisme possible. Est-ce que je suis clair? Voilà. Et c'est pour ça que le duo conceptuel de Benjamin, qualité-tendance, me semble, moi, très important, et qu'il ne faut pas le localiser au seul sujet dans lequel il apparaît, qui sont un débat entre écrivains, quand même entre écrivains, qui se demandent comment ne pas être fasciste. Donc voilà ma thèse, je m'arrête quasiment là-dessus, parce que je pense que nous sommes toujours dans la tendance qui a rendu le nazisme possible. Je ne dis pas que nous sommes nazis. On est bien d'accord sur la formule. Hein, on n'y est pas. Pas exactement. Mais nous sommes dans la tendance qui le rend toujours possible. Nous sommes depuis des années dans la tendance qui le rend toujours possible. Ce qui les distingue, les sociétés... nazis et nous, ce qui nous distingue, c'est de ne pas pousser cette tendance au même point, notamment au même point d'apparence et de manifestation. Nous ne poussons pas la tendance dans laquelle nous sommes, eux comme nous, au même point qu'eux, au même endroit qu'eux, si le mot endroit convient en l'occurrence. Ce qui nous distingue, c'est de ne pas pousser cette tendance au même point, notamment au même point d'apparence et de manifestation. Elle ne s'implique pas. La façon dont nous poussons la tendance, nous, aujourd'hui, nous n'impliquons pas cette tendance dans la politique au point où cela eut lieu dans les années 30. L'espace public s'y mêle moins, y est moins mêlé. Hein, pour nous, l'espace public est moins mêlé, la politique est moins mêlée. Et nous avons tendance, c'est le cas de le dire, la tendance dans laquelle le nazisme aurait été possible, nous avons tendance, nous, c'est ce qui nous distingue, à la réserver plutôt au mode économique de la gestion. Mais nous ne sommes jamais loin que cette réserve du management par l'autonomie au mode économique soit lui-même extrapolé, si j'ose dire, au niveau des procédures et des conséquences de ce qui, dans ce cas-là, n'est plus à proprement parler de la politique. Puisque, si j'ai été clair, le principe de ce management, c'est que les principes ne sont pas discutables. Voilà. Je ne sais pas si tout ça n'est pas un peu confus, comme toujours, mais je crois que c'est tout pour ce soir. On peut discuter, bien entendu, mais... Vas-y.
Moi, j'ai plein de choses, hein, mais bon, je sais pas. Je vais commencer par des références, de poser des questions. Quand tu parlais d'embarquer, tu pensais à qui?
Alors, je pensais à quelque chose qui va venir, c'est que des métaphores pour penser la politique depuis que cette idée existe, qui n'est pas complètement la nuit des temps quand même, c'est-à-dire on peut dater. Quand est-ce que l'idée de politique apparaît, etc. Bon, en gros, enfin, dans la période, appelons-la grecque pour aller vite. Bon, il y a des métaphores qui sont qui apparaissent à ce moment-là pour penser quelle est la responsabilité de ce qu'on pourrait appeler la politique. Et par exemple, chez Platon, il y a la métaphore du troupeau. Hein, et donc il faut un chef au troupeau, etc. Nous sommes, c'est pour ça que j'ai parlé, nous sommes grégaires, ou est-ce que nous sommes grégaires ou pas, non, le troupeau. Mais il y a aussi une autre métaphore qui est là dès le début. En fait, je dirais que dans mon travail, j'ai eu besoin de ne pas recourir à la métaphore du troupeau. J'ai dit pourquoi, je pense, au passage. Et m'est venu, j'écrivais tout simplement les notes à partir desquelles je travaille, et m'est venue cette formule, en fait, il faut que je dise « nous sommes embarqués ». Voilà. Que ce qui caractérise l'humanité, c'est elle ne cesse de se déplacer, si je suis logique avec ce que j'ai dit lors de la séance précédente, et quelle est l'image qui rendrait le mieux compte de ça. Et c'est l'image de l'embarcation qui dérive, et qui, il n'y a peut-être pas de port, et on n'arrive peut-être jamais, nulle part, il n'y a pas de but. Bon, il y a des tas de choses à méditer derrière ça, ce que veut dire le mot poros en grec, apori étant le contraire de poros, poros c'est l'expédient, comment s'en sortir, etc. Bon, l'embarcation qui dérive, évidemment, je pense à l'Odyssée d'Ulysse, sauf qu'il faudrait supprimer le retour à Ithaque, il n'y a pas de patrie, hein, dans ce que j'imagine. Et en fait, cette métaphore de l'embarcation, elle est employée chez Xénophon, c'est très clair. Et elle est également chez Aristote, c'est très clair. Et donc, je compte faire un sort à ça. Est-ce que, finalement, dans la façon dont on pense la politique, est-ce qu'il faut des chefs ? Voilà. Et, comment est-ce qu'un navire qui dérive, comment ça se passe ? Voilà. Qui est pilote à ce moment-là ? Comment ça s'organise ? Il me semble que c'est autre chose comme question qui émerge avec cette métaphore-là que la métaphore du troupeau.
Enfin, moi, je pensais pas à la fin, si, je comprends, mais ce que tu dis, ça évoque des choses, mais je pensais à... Parce qu'il y a un livre qui s'intitule comme ça, qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça.
Ah oui.
Je crois que c'est exactement ça. C'est un peu plus long. Qui est un livre de Patricia Hatzey, aux éditions Nous, et qui, elle, renvoie à une formule de Pascal. Il y a ça chez Pascal.
Et ben tu trouver tu veux pas nous donner cette référence, on la mettra dans la... Oui, je sais pas si Antoine fait toujours la bibliothèque du séminaire, si j'ose dire.
Et puis, une autre chose aussi, toujours sous l'ordre des références, parce que quand tu as parlé de l'arbre au début, je vais éviter une discussion sur Badiou, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on l'ait. Parce que quand même, il y a beaucoup de choses en creux, enfin pas qu'en creux d'ailleurs, qui quand même me font penser quand même beaucoup... à Badiou, sur plein d'endroits, mais bon, c'est pour... sur l'arbre, je sais pas, moi je pensais au texte à des textes, enfin, je sais plus dans lequel, peut-être dans Eupalinos ou l'architecte, non, il y a beaucoup de questions, j'aurais pensé à ça, je sais pas si tu pensais à des références...
Non, j'y pensais pas, mais on peut y aller, on peut aller voir, hein. Ouais, ouais. Ouais. Non, les références auxquelles je pensais, je les ai dites, c'est Paul Klee et, oui. Et Simone Weil. Quand ouais. Simone Weil, le texte de Simone Weil, L'enracinement, qui est en fait une grande méditation sur la métaphore de l'arbre. Alors je précise pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas le texte, que l'enracinement chez Simone Weil, il est double. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle dit très clairement que pour qu'un arbre croisse, il ne faut pas simplement qu'il ait des racines, mm-hmm. mais il faut également que la lumière mm-hmm. le fasse pousser vers le haut. Hein. Donc les racines de l'arbre sont aussi bien célestes que terrestres.
Mmh. Enfin, moi, ça m'a fait penser aussi à ce ouais. à des passages de... Je crois que c'est dans Eupalinos. Je sais, d'abord.
Et alors, Badiou ?
Non, mais ça, il faut cette édition qu'il faut qu'on ait... là, je ne veux pas monopoliser autour de Badiou, mais bon, la fidélité... bon, ça c'est le premier mot auquel j'ai associé Badiou là ce soir, mais c'est pas la première fois que je mets Badiou dans mes notes. Mais je sais pas, tu as parlé aussi de la place. Moi je crois qu'il appelle ça enfin, lui c'est un mathématicien. Enfin, j'ai noté l'ordination, mais c'est pas son terme. L'ordination, mais c'est pas son terme. Mais c'est, voilà. Et il y a de ça dans Alors, moi, le livre que je préfère de Badiou, c'est quand même Le Nombre et les Nombres, et c'est quand même un espace justement aussi pour remettre, il me semble, hein, dans ce que j'en lis, de remise en cause de ça, mais avec cette notion de d'ordination, enfin avec les nombres. Mais c'est, enfin, je ne pense pas que ce soit le moment.
D'accord. Ben moi, je vais répondre très honnêtement que je ne suis pas complètement ignare en Badiou, mais j'ai lu un certain nombre de textes, sûrement pas tout. Mais je veux dire, s'il y a une influence dans ce que j'ai dit, c'est de l'ordre de l'inconscient. J'y ai pas pensé.
Je ne pense pas à d'influence, moi je pense à des choses qu'il faudrait, qui me semblent qui seraient intéressantes de discuter, enfin, ou même au moment aussi que tu as parlé de politique, alors c'était où déjà, sur les principes, ouais, enfin, moi ça pareil. Donc je trouverais intéressant, mais, même s'il peut y avoir des désaccords.
Hein, oui, d'accord.
Il n'y a pas de questions, pour l'instant.
Bon. Tu pourrais lire la phrase d'Anna Arendt sur les principes ?
Si je pourrais la lire ?
Oui, la lire.
Non, j'ai pas cité Anna Arendt, là. C'est moi qui ai parlé, en son nom.
Sur le fait de doit
pardon ?
Toute opération que les humains peuvent se permettre doit être liée à des principes.
Ah mais ça, c'est pas une phrase d'Anna Arendt. C'est une phrase qui n'est pas contradictoire, d'après moi, avec ce qu'elle pense, mais c'est, malheureusement, c'est...
Parce que du coup, comme j'avais entendu que c'était Anna Arendt, je me disais, mais le doigt, est-ce que c'est pas à la place de doigt, a besoin...
Est-ce que...
À la place de doigt...
Redonne la phrase.
Toute opération que les humains peuvent se permettre doit être liée à des principes.
Alors, je pense que Anna Arendt dirait, c'est moi qui l'a fait parler encore une fois, mais je pense qu'elle dirait pas a besoin, mais parce qu'en fait, il y a des opérations qui existent et qui se font sans principe, et donc il y a des opérations qui n'ont pas besoin. Bon, le fait est, c'est peut-être tout à fait regrettable, mais le fait est. Et donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un devoir. Tout ça est très compliqué, puisque je sais très bien que je me mets moi-même, mais c'est un séminaire, je me mets moi-même en difficulté, et je vous mets en difficulté, hein, puisque d'un autre côté, je fais cette note d'introduction pour dire quand même la phrase « ça doit être », c'est une phrase qu'on peut peut-être entendre comme problématique, et puis en même temps, je lâche des phrases comme ça, « toute opération doit être liée à des principes ». Est-ce qu'il y a devoir et devoir ? Enfin, qu'est-ce qui se joue là-dedans ? C'est pas clair. Mais j'ai encore deux séances pour me racheter.
Je complète ma référence, donc pas de Tsai, j'aurais dû le savoir, mais je ne le savais plus. Nous sommes embarqués, le sous-titre, c'est la politique, le pari. Et, bon, d'accord. Et c'est surtout, elle est assez proche de Bernard Asp. Donc il y a des...
D'accord, merci beaucoup.
Qui travaille aussi beaucoup actuellement sur la question du travail.
Toujours pas de question de Yves Citon. Qui s'est déconnecté d'ailleurs.
Ben, s'il n'y a pas de question... Est-ce que Pablo est là ?
Oui.
Alors je salue Pablo, ami fidèle. Voilà.
Il y a Pablo, il y a d'autres gens, Christian Perrin.
Ah, je salue tous les fidèles, mais je veux dire, je suis obligé de dire publiquement qu'avec Pablo, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'il a été étudiant à Paris 1, et qu'il nous suit, il me suit depuis la Colombie. Donc je lui passe un salut particulier.
Malgré le décalage horaire.
Malgré le décalage horaire qui poussait, oui. Cédric.
Ben, il est là, Cédric.
On se donne rendez-vous dans 15 jours.
J'allais dire
quelque... Ah, tu allais dire...
J'ai le souvenir d'une phrase de Xénophon sur l'économie où il l'a définie comme l'ordre sur un bateau.
Sur ?
Sur le bateau.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça.
L'ordre.
Oui.
Comme ?
Et sur un bateau.
L'ordre sur le bateau.
L'ordre.
Oui, que les choses soient bien ordonnées sur le bateau.
Oui, alors là, justement, c'est là où il y a des problèmes de traduction avec le fameux mot taxis. Qu'est-ce qu'il a à dire ? On traduit l'ordre, on traduit place, etc. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il y a une phrase très, très étonnante de Xénophon dans laquelle il y a à la fois un verbe et un nom qui se redondant. Bon, nombre de traductions sont tout simplement la phrase. Comme ça, en français, il n'y a plus de problème. Quoi. Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste par taxis ? Et quel est le rapport entre la notion grecque de nomos et la notion de taxis ? Et le texte de Xénophon me semble être l'un des textes où la langue fait jouer ensemble ces deux notions, donc il faut le comprendre. Et paradoxalement, je ne pense pas que ce genre de lecture soit... C'est un peu quand même ce que j'essaye de montrer... Soit complètement sans enjeu pour aujourd'hui, bien qu'on pourrait dire c'est de l'érudition. Voilà. Non, je pense que c'est plus important que ça, justement à cause des traductions.
Je pensais ça par rapport à l'embarcation.
Oui, oui, oui. Mais une embarcation, c'est à la fois quelque chose qui est mobile. Enfin, on est toujours, on va dire, si on se jette à l'eau, on se noie, donc il n'est pas question de sortir de l'embarcation, et en même temps, elle ne cesse de dériver. Donc c'est une métaphore intéressante. Et c'est l'une des métaphores originelles pour économie.
Mais si on traduit par ordre, ça fait plus référence à organisation.
Oui.
Parce que dans le début de la psychologie des masses de Freud, justement, il y a tout un propos sur l'indistinction dans la masse, l'équivalence des êtres qui ne regardent que vers le leader et qui... ne sont pas dissemblants entre eux. Et alors c'est pas une réponse parce que c'est au début du livre, mais c'est que du moment qu'on organise ces masses, c'est qu'on différencie les fonctions au sein d'une organisation, on fait des distinctions et on sort du caractère grégaire de la masse.
Oui.
Et toi, tu préfères à cette logique organisationnelle qui est plus de l'ordre de l'organisation politique ou une logique des places et des distributions.
Dans ce que tu dis, par exemple, il y aurait une formule que je pourrais considérer comme difficile ou problématique, c'est quel est le « on » qui organise le déplacement, la trajectoire. Et voilà. Et qui... qu'est-ce qui règle, si le mot convient, le fait que tel soit à la rame, tel à la barre, tel à faire je ne sais pas quoi, etc. Comment ça se met en place, si le mot convient, encore de place convient, comment ça se met en place, est-ce que ça se discute, et si ça se discute, qu'est-ce qu'on discute, est-ce que ce sont des buts ou est-ce que ce sont des principes, etc.
Alors Pablo dit « Bien sûr que je vous suis toujours !» 3 points d'exclamation.
Je crois s'il n'y a pas de questions, je termine comme j'ai commencé. Je salue tout le monde amicalement et pour ma part, je reviens dans 15 jours.
Merci. Christian Perrin, merci pour votre exposé très stimulant.